Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons terminer cette convention en vous donnant ces quelques pensées importantes. Je voudrais vous donner 5 priorités importantes à connaître. 5 priorités. Et nous allons voir cela dans les évangiles et dans une épître de Paul, où nous retrouvons cette expression « une seule chose ». Vous allez voir, à plusieurs reprises, il est parlé d'une seule chose. « Je fais une seule chose. » »« Une seule chose est nécessaire. » »« Je fais une seule chose. » Vous voyez, à plusieurs reprises, l'expression « une seule chose » revient comme si c'était une priorité. Quand on dit « une seule chose », cela veut dire que c'est une priorité, n'est-ce pas vrai? Car nous faisons tant de choses, nous faisons beaucoup de choses, que nous négligeons la seule chose nécessaire. Amen. Et alors, cet après-midi, Dieu veut que nous ayons des priorités dans notre vie chrétienne. Des priorités. Il y a des choses qui doivent être prioritaires. Quelles sont ces choses? Il y en a 5. Et nous ferions bien d'y prendre garde, parce que si le Seigneur considère ces choses comme prioritaires, elles doivent donc l'être aussi pour chacun d'entre nous. Alors donc, 5 priorités importantes pour chaque chrétien. La première priorité, c'est la priorité du salut. Alors on peut bien sûr commencer par là. Et nous trouvons cette expression « une seule chose » dans Marc 10, 21. Marc 10, 21, c'est l'histoire du jeune homme riche. Vous savez, qui est venu vers Jésus. Il a couru et s'est jeté à ses genoux. Marc 10, au verset 17 déjà, et lui dit « Bon maître, demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Et tu ne porteras point de faux témoignage. Tu ne frapperas personne. Honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima et lui dit, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles maintenant? Il te manque une chose. Voyez-vous, l'expression une chose est là. Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Mais, affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus, regardant autour de lui, dit à ses disciples qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi, et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Ceux qui se confient dans leurs richesses. Alors voyez-vous, la première priorité pour Jésus, nous le voyons bien, c'est la priorité du salut. Et avez-vous remarqué ce qu'il dit à ce jeune homme riche? Il ne lui dit pas, tu as beaucoup de choses en trop, parce qu'il a fait beaucoup de choses, n'est-ce pas vrai? Et malgré tout ce qu'il a fait, Jésus lui dit, il te manque quelque chose. Il ne lui a pas dit, tu as des choses en trop. Mais il lui dit, il te manque quelque chose. Autrement dit, tout ce que nous pouvons avoir dans ce monde sera toujours insuffisant. Si nous ne sommes pas sauvés, l'argent que nous pouvons posséder dans ce monde, les richesses que nous pouvons posséder, ne nous servent à rien du tout. La personne la plus riche dans ce monde, c'est celle qui connaît Jésus-Christ comme son sauveur personnel. Alléluia! Amen! La personne la plus riche et la personne la plus pauvre, c'est celle qui n'a que de l'argent. Oui. La personne la plus pauvre, c'est celle qui n'a que de l'argent. Et beaucoup de personnes qui ont de l'argent sont malheureux, n'est-ce pas vrai? L'argent est un bon serviteur, mais un mauvais maître. On en a tous besoin pour vivre, c'est vrai. Posséder de l'argent est une bonne chose, mais être possédé par l'argent, ça c'est très mauvais. Et le jeune homme riche, il ne possédait pas seulement de l'argent, il était possédé par l'argent. C'est pourquoi il est parti tout triste. Quand Jésus lui a dit de tout vendre et de le suivre, ça c'était de trop. Et il lui a dit, il te manque une chose. Voyez-vous, et pourtant il avait beaucoup, mais il lui manquait l'essentiel, la priorité du salut. Jésus l'a dit une autre fois, à quoi sert-il un homme de gagner le monde entier s'il perd son âme? Voilà la priorité du salut. Si tu n'es pas sauvé, si tu n'as pas l'assurance de ton salut, si tu ne t'es pas mis en règle avec Dieu, et même tu dis, oh, mais moi j'ai ma religion, je suis sauvé, je fais ce qu'on me demande. Non, la religion ne sauve personne. Si la religion pouvait sauver quelqu'un, Jésus ne serait pas venu sur cette terre. Car du temps de Jésus, il y avait des centaines de religion, n'est-ce pas vrai? Pour ne pas dire des milliers. Si la religion pouvait sauver, Jésus ne serait pas venu. Parce que la religion existait déjà à ce moment-là, n'est-ce pas vrai? Et des multitudes suivaient une religion. Mais si Jésus est venu, c'est pour nous dire, la religion ne suffit pas. Ta religion ne te sauvera pas. C'est Jésus qui sauve. Alléluia. Jésus seul peut sauver, et Jésus seul est le sauveur. La priorité du salut. Tu possèdes beaucoup de choses. Beaucoup de gens te disent que tu possèdes beaucoup de choses, mais Jésus, lui, te dit, il te manque une chose. Tout ce que tu as n'est rien du tout. Il te manque l'essentiel. Il te manque le sauveur. Il te manque le salut, le pardon de tes péchés, la réconciliation avec Dieu. Car le plus grand des miracles n'est pas la guérison d'un corps. Le plus grand des miracles, c'est la guérison de l'âme. Amen. Le salut de ton âme. Nous pouvons aller au ciel avec un corps malade, mais tu n'iras jamais au ciel avec une âme malade. Amen. Es-tu en règle avec Dieu? Il te manque une chose. Voyez-vous, Jésus le regarda et l'aima. Il a vu que ce jeune homme n'avait pas mis les priorités à leur place. Il avait beaucoup de choses, mais il était malheureux. La preuve, c'est qu'il est venu vers Jésus. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Voyez-vous, on voyait bien que les biens matériels et même sa vie morale, il avait honoré son père, il avait honoré sa mère. Voyez-vous, c'était quelqu'un humainement de très bien. Aujourd'hui, on dirait à cette personne, mais tout va très bien. Avec tout ce que tu as fait là, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ce que tu fais. Mais tu es une perle. Continue comme ça et tu seras sauvé. Mais beaucoup diraient cela aujourd'hui, même des leaders religieux. Il dit, oulala, continue. Mais surtout, viens dans mon église, parce que je vois que tu as beaucoup de pesetas. Tu as beaucoup de pesettes, là, ça m'intéresse. Continue comme ça. Mais n'oublie pas de mettre à la collecte, hein, quand elle passe, surtout. Tu en déposes un peu, pas mal, là, ça nous arrangera aussi. Vous voyez, aujourd'hui, beaucoup de leaders feraient comme ça. Ils lui taperaient sur l'épaule en disant, mais bah, c'est très bien, continue comme ça. Tu fais du bien, tu honores ton père, ta mère, Dieu est amour. Regardez comment on déforme l'amour de Dieu. Dieu est amour. Alors, avec tout le bien que tu as fait et le mal que tu as fait, tu as fait tellement de bien que dans la balance, le poids du bien est plus fort. Alors, tu seras sauvé. Ne te casse pas la tête. C'est comme cela qu'on console les gens et qu'on trompe une multitude. Dites-moi, mes amis, encore aujourd'hui, après 20 siècles de christianisme, il y a encore de telles ténèbres au milieu de nous, n'est-ce pas vrai? Ici à Paris, dans la France, partout, cette France si religieuse, eh bien, a mis sa confiance dans la religion. Et la religion ne sauvera personne. Et Jésus te dit, il te manque quelque chose. C'est l'essentiel. Tu ne peux pas acheter ton salut par tes prières, tes bonnes œuvres, par ta moralité. Tu ne peux pas. Ton salut coûte trop cher. Pourquoi le salut est-il gratuit? Parce que personne ne peut le payer. Dieu nous l'offre comme un cadeau parce que personne ne peut le payer. Voilà pourquoi il est gratuit. Il est gratuit pour nous, mais il n'est pas bon marché. Il a fallu que Jésus donne sa vie. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Il est gratuit pour toi, pour moi. Pourquoi? Parce qu'on ne pouvait jamais payer. Mais il n'est pas bon marché. Beaucoup de gens disent, oh non, non, ce salut gratuit, comme ça, moi je n'en veux pas, ça c'est trop facile. Voyez-vous, ils n'ont rien compris. Il est gratuit pour nous. Mais la Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. Il a fallu les souffrances de l'agneau de Dieu, la croix. C'est pourquoi l'apôtre Paul disait, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Comment un homme en croit peut-il sauver l'humanité? Mais pour nous qui croyons, elle est la puissance de Dieu. Alléluia. Il te manque une chose. Tu possèdes beaucoup de biens. Tu es peut-être une personne morale. Mais il te manque l'essentiel. Il te manque Jésus-Christ. Il te manque ce salut gratuit que Dieu donne comme un cadeau à ceux qui se repentent sincèrement de leur péché. Alléluia. Tu ne peux pas mériter ce cadeau. Tu dois recevoir Jésus dans ta vie au travers de la repentance de tes péchés. Dire, Seigneur, pardonne-moi, je t'ai déshonoré, mais tu as payé ma dette. Le salaire du péché, c'est la mort. Mon péché mérite la condamnation de Dieu. Ça, c'est la justice divine. Ton péché mérite le jugement divin. Le salaire du péché, c'est la mort. Ton péché te sépare de Dieu. Et tu ne verras jamais la gloire de Dieu à cause de ton péché. Ça, c'est la justice de Dieu. Dieu est juste et saint. Il doit punir les péchés. S'il ne punit pas le péché, il n'est pas Dieu. Il n'est pas saint. On ne peut pas dire, venir à Dieu et dire, oh Dieu, tu vois, j'ai fait ceci, cela, mais j'ai fait du bien, plus du bien que d'homme. Non, 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 non. Si le mal, un seul mensonge doit être puni par Dieu. Un seul mensonge te ferme le ciel. Car dans le ciel, tout est pureté, tout est sainteté. Ceux qui entreront dans le ciel, ce sont ceux qui se sont repentis de leurs péchés, ont réalisé leur culpabilité et ont mis leur confiance dans le sacrifice sanglant de Jésus pour le pardon de leurs péchés et pour la vie éternelle. Et l'ont reçu comme un cadeau qui vient du ciel. Alléluia. Et le cadeau, on le reçoit tout simplement en disant merci. Merci Seigneur. Dieu t'offre ce cadeau de la vie éternelle. Veux-tu le recevoir? C'est comme un cadeau. Ou c'est un cadeau, ou alors tu ne l'accepteras jamais. Tu ne le recevras jamais. Il ne te donnera jamais. Il te manque une chose. As-tu fait cette priorité dans ta vie? La chose la plus importante, c'est d'être en règle avec Dieu. Amen. La chose la plus importante, c'est ta conversion à Jésus-Christ dans ce monde. C'est la chose la plus importante. À quoi sert-il de gagner le monde entier si tu fais la perte de ton âme? Si tes yeux se ferment ce soir sur cette terre, où iras-tu? La Bible dit qu'après la mort, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Mes amis, on ne peut pas, il n'y a pas de purgatoire après la mort. Il n'y a pas de réincarnation après la mort. Tu ne vas pas passer dans une souris ou dans un arbre ou dans une vache. Il y a même des professeurs qui croient en la réincarnation. Des hommes, des scientifiques qui croient en ces choses. N'est-ce pas terrible? Tout cela, pourquoi? Parce qu'on ne veut pas affronter Dieu et son jugement. On ne veut pas croire qu'il y a un Dieu qui va juger les hommes et qui va juger son péché. Parce qu'on ne veut pas croire cela, on est prêt à croire toutes les bêtises. On est prêt à croire n'importe quoi, pourvu qu'on ne croit pas au jugement. Mais que tu n'y crois, que tu y crois, ou que tu n'y crois pas, le jugement aura lieu. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Voilà pourquoi, si tu acceptes Jésus comme ton sauveur ici-bas, alors il ne sera pas ton juge après la mort. Mais si tu le refuses comme ton sauveur ici-bas, il sera ton juge après la mort. Car après la mort, c'est trop tard. Tu ne pourras pas dire, oh Seigneur, il faut qu'on discute un petit peu tous les deux. La discussion, c'est ici avec le Seigneur, c'est pas là-haut. Parce que Dieu est saint. Et si tu as encore ton péché, tu ne pourras même pas t'approcher de Dieu. La lumière, la sainteté, la pureté de Dieu, dès que tu la verras, produira en toi une chose. Tu n'auras qu'une envie, les ténèbres en toi, le péché qui est en toi, fera une chose. Que tu chercheras à te couvrir et à fuir la présence de Dieu. La Bible dit que toute bouche sera fermée devant Dieu. Tous ceux qui veulent discuter et dire, moi, j'ai ceci à dire à Dieu, le jour où tu chercheras à te présenter devant Dieu, la Bible dit que toute bouche sera fermée. La lumière céleste pénétrera dans ton cœur et tu verras la noirceur de ton cœur. Tu verras que tout est vanité, vanité. Tu verras que ce que tu veux lui dire, c'est perdu d'avance. Tu verras ton péché, ta vie telle qu'elle est en réalité. Toi qui voulais te justifier devant sa lumière sainte et pure, tu verras ta vie telle qu'elle est, une loque, une souillure, le péché qui a déshonoré Dieu. Ta bouche sera fermée et toi-même, tu ne pourras pas rester dans la présence du Dieu trois fois saint et tu n'iras que dans un endroit, l'enfer, où c'est le lieu destiné à ceux qui ne veulent pas se repentir. Mes amis, le ciel existe, mais l'enfer existe aussi. Écoutez-moi bien une chose. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler de cela. Mais Jésus a parlé de l'enfer aussi. Jésus a parlé de l'enfer. C'est une réalité. Et il ne dit pas ces choses pour faire peur aux gens. Mais il dit ces choses parce que c'est une réalité terrible. Écoutez-moi bien. Si Jésus n'était pas venu sur cette terre pour nous sauver de l'enfer, si après la mort, on meurt tous, on est tous détruits, il n'y a plus rien, à quoi, pourquoi Jésus est-il venu? Finalement, sa mort n'a pas de sens. Vous comprenez? Sa mort n'a pas de conséquences terribles. Mais lui, s'il est venu mourir, c'est parce qu'il connaît les conséquences éternelles de notre refus de ce salut. Il sait que si nous refusons son salut, nous serons perdus éternellement en enfer. Esclaves de Satan. Car l'enfer n'a pas été destiné pour les hommes, mais pour le diable et ses anges. Mais si nous ne voulons pas nous convertir, alors ce lieu est malheureusement pour ceux qui ne veulent pas se repentir et changer de vie. Et c'est nous-mêmes qui irions là-bas, parce que le ciel, nous ne pourrions pas tenir. Le ciel est un endroit préparé pour ceux qui se sont préparés, mes amis. Vous entendez souvent dans les enterrements, on envoie tout le monde au ciel, n'est-ce pas vrai? Tout le monde. Le plus grand mécréant, le bandit, le voleur, n'importe qui, on les envoie tous au ciel. Vous croyez qu'on peut aller au ciel comme ça? Ces gens-là, écoutez-moi bien, déjà dans une église comme ça, ils ne tiennent pas ici. Ils ne tiennent pas cinq minutes en compagnie des chrétiens qui chantent l'amour, la pureté, la sainteté de Dieu. Ils ne tiennent pas. Ils se lèvent de là-bas au fond et disent, ils sont tous fous ici. Qu'est-ce que c'est que ces fous ici? Comment voulez-vous qu'ils restent avec nous là-bas pour l'éternité? Ce seront les mêmes personnes qui seront là-haut. S'il ne tient pas cinq minutes ici, il ne tiendra pas une seconde au ciel. Et on les envoie tous au ciel. Mais est-ce qu'ils vont au ciel? Dites-moi, nous pouvons en rire un petit peu, mais ce sera la plus grande tragédie. Parce que ces personnes même, lorsqu'elles ont fermé leurs yeux sur cette terre, et si elles n'ont pas pris Jésus comme leur sauveur, leurs yeux s'ouvrent en enfer. Là, la réalité des démons et du diable devient une triste réalité. Ce qu'ils ont voulu rejeter, maintenant ils sont face à face. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est trop tard. C'est pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. C'est aujourd'hui le jour du salut. C'est maintenant le moment favorable. Le mot du diable, c'est toujours demain. Le mot de Dieu, c'est toujours aujourd'hui. Car demain ne vous appartient pas. Aujourd'hui, mets-toi en règle. Réfléchis à cela. La priorité du salut. Deuxième priorité, nous allons voir cela dans Jean 9, 25. Une autre priorité, Jean 9, 25. Vous allez voir, c'est une autre personne, cette fois qui a expérimenté un miracle. Jean 9, 24 déjà, les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle. Il s'agit d'un aveugle qui avait été guéri par Jésus. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Vous voyez, les pharisiens, ce sont les gens qui avaient une religion. Ils avaient une religion, mais ils étaient contre Jésus. Vous vous rendez compte? Comment peut-on avoir une religion et être contre Jésus? Ça n'existe pas. Et pourtant, voilà. Et ils lui dirent, donne gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. Vous voyez où il parlait de Jésus comme étant un pécheur. Il répondit, s'il est pécheur, je ne sais. Je sais une chose. Voilà. Qu'est-ce qu'il sait? Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle. Et maintenant, je vois. Une chose. Voyez-vous, il a tout résumé en une seule phrase. Je sais une chose. Et ici, c'est la priorité, c'est quoi? Tout à l'heure, c'était le salut. Et maintenant, c'est la priorité d'un cœur reconnaissant. Nous devons être reconnaissants pour ce que Dieu fait dans notre vie. Amen. Ça, c'est une priorité. Et cet aveugle n'a pas renié son sauveur. Les autres se sont moqués de lui. Donne gloire à Dieu. Celui qui t'a guéri, c'est un pécheur. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sais une chose. J'étais aveugle. Maintenant, je vois. Il est reconnaissant. Alléluia. Il n'a pas dit, oui, peut-être. Parce que les pharisiens, à ce moment-là, ces hommes religieux avaient un grand pouvoir. Ils avaient le pouvoir de vous mettre en prison aussi. Ils étaient toujours en connivence avec les autorités. Et ils avaient un très grand pouvoir. Mais cet homme ne s'est pas laissé arrêter. Il dit, je sais une chose, j'étais aveugle. Maintenant je vois. Il était reconnaissant. Et c'est après que Jésus s'est révélé à cet homme, n'est-ce pas vrai? Il s'est révélé. Crois-tu au Fils de Dieu? Je le suis. Qui il est? Je le suis. Je crois. Et il se courbe. Et il accepte Jésus comme son sauveur. Alléluia. Voyez-vous, quand un cœur est droit et reconnaissant, Dieu peut faire des choses merveilleuses. La priorité d'un esprit reconnaissant. Es-tu reconnaissant pour ce que Dieu a fait? Dieu a fait beaucoup dans ta vie. Es-tu reconnaissant? Tu passes peut-être par une phase mauvaise, mais as-tu oublié tout ce que Dieu a fait dans ta vie? Est-ce que cette priorité est là en toi? Est-ce que tu, malgré tout cela, tu veux dire, Seigneur, je veux être reconnaissant pour tout ce que tu m'as fait. Je suis en train de ronchonner pour ce que je n'ai pas. Mais je veux te dire merci pour tout ce que tu m'as donné. Veux-tu le faire? Au lieu de pleurer sur ce que tu n'as pas, pourquoi tu ne dis pas merci pour ce que tu as reçu? C'est là une priorité. Si tu veux que Dieu continue d'agir dans ta vie, tu dois avoir un cœur reconnaissant. Les murmures n'aident pas Dieu à agir, au contraire, quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui se place entre quatre murs. Oui, oui, il est toujours. C'est quelqu'un qui est emmuré. Murmure. Ça veut dire, il bâtit des murs tout le temps autour de lui. Murmure. Alors il bâtit des murs. Murmure. Continue de murmurer. Et c'est comme si tu bâtissais une forteresse autour de toi. Murmure. Quelqu'un qui murmure, c'est quelqu'un qui s'entoure de murs, qui est emmuré. Les murmures te garderont en prison longtemps. Si tu veux sortir de ta prison, commence à dire merci Seigneur. Réfléchis un petit peu. Tu n'as pas que des problèmes. Dieu t'a béni. Et nous oublions parfois cela. C'est tout simple ce que je vous dis. Mais dans l'épreuve, dans les murmures, on ne voit plus rien. On va même jusqu'à dire Dieu, tu m'as abandonné, tu ne m'aimes plus. On va jusque-là, on se dresse contre celui qui seul peut nous aider et qui nous aime vraiment. On se dresse contre l'être le plus parfait, contre l'être le plus juste, le plus compatissant, contre celui qui est notre créateur. On se dresse contre celui seul qui peut nous sauver. et nous transformer, n'est-ce pas une tragédie? La priorité d'un cœur reconnaissant, es-tu reconnaissant pour ce que tu as fait dans ta vie? Mon âme, disait le psalmiste, bénis l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Alléluia. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras qu'en adorant, combien le nombre en est grand. Quand tu murmures, le nombre diminue. Il n'y a plus grand-chose. Mais quand tu comptes les bienfaits de Dieu, il y a toujours quelque chose qui... Ah, le Seigneur te dira, ah oui, il y a ça aussi. Tu sais, il y a tel jour, telle heure, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et puis, vous n'allez plus pouvoir vous arrêter. Tellement le Seigneur a fait de grandes choses dans votre vie. Es-tu reconnaissant? Tu es soit un chrétien reconnaissant, sois un chrétien qui murmure. Sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Dieu agit dans ma vie. Je ne veux jamais l'oublier. Je veux le dire. Dis-le autour de toi. Même si tu as quelques problèmes, dis ce que tu as fait. Au lieu d'aller dire, vous savez, pas du tout. Au lieu d'aller pleurnicher, va, ouvre ta bouche et dis, le Seigneur m'a béni tant de fois. Et s'il m'a béni tant de fois, je sais qu'il le fera encore. Il m'aidera, même si je dois passer par la vallée de l'ombre et de la mort. Même si les difficultés sont là, je connais son cœur. Je sais une chose, j'étais aveugle, maintenant je vois. Sois reconnaissant, mon frère, ma sœur. Sois reconnaissant. N'oublie pas ce que tu as fait dans ta vie. Pourquoi veux-tu que Dieu te bénisse quand tu commences à mépriser les bénédictions de Dieu dans ta vie? Pourquoi tu veux que Dieu te bénisse encore? Tu veux encore mépriser ce qu'il va te donner? Est-ce qu'il a une garantie que tu vas être reconnaissant? Si tu n'es pas reconnaissant pour ce qu'il a fait dans ta vie, sois reconnaissant. Je sais une chose. Mais mon frère, ma sœur, décide une chose, d'être un chrétien reconnaissant. Amen. Il y en a trop qui murmurent. Voilà pourquoi tu te trouves dans des problèmes innombrables. Priez pour moi. On s'en sort plus. Je ne veux pas dire qu'on n'a pas de difficulté, que vous priez. Mais n'oubliez pas la priorité, soyez reconnaissant. Dieu a fait déjà tant de choses. Et si vous avez un cœur reconnaissant, cela vous aidera à supporter les problèmes. Ces problèmes que vous avez ne vous écraseront pas. Vous ne serez pas désespérés au sein de ces problèmes. Vous pourrez pleurer, c'est vrai, la Bible dit de pleurer avec ceux qui pleurent. Mais vos pleurs ne seront pas des pleurs de désespoir, de déprime. Tu peux pleurer, mais tu peux finir en disant, mais je sais une chose. J'étais aveugle, maintenant je vois. Un jour, j'ai vu la main de mon Dieu. Et je l'ai vu tant de fois, je ne veux pas l'oublier. Rappelle-toi d'où Dieu t'a sorti. Rappelle-toi. Rappelle-toi. Et tes problèmes ne seront rien du tout à côté de cela. Je sais une chose, la priorité d'un cœur reconnaissant. Le monde est toujours plein de revendications, n'est-ce pas vrai? Toujours on en demande. Plus on a, plus on est insatisfait, n'est-ce pas vrai? Et les chrétiens, malheureusement, ont attrapé ce virus aussi. Le même virus. Ça va. Bon, il peut y avoir des revendications justes. Mais attention de ne pas attraper ce virus. Où il n'y a plus rien qui nous satisfait. On est là. On vit comme des païens. Il n'y a plus de témoignage. Il n'y a plus de priorité dans notre vie. N'est-ce pas une tragédie? Mais je sais une chose. J'étais aveugle, je vois. Sois reconnaissant. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. Parfois, nous avons le sentiment que Dieu nous abandonne. Mais ce n'est pas vrai, c'est nous qui l'avons abandonné. C'est nous qui l'avons abandonné, ce n'est pas lui. Il est toujours là, il nous aime, il veut nous aider. Sois reconnaissant pour ce qu'il a fait. Et tu verras ce qu'il pourra faire encore dans ta vie. Amen. C'est une priorité. Sois un chrétien reconnaissant. Arrête de murmurer continuellement. Tu déshonores ton Dieu. C'est comme si tu lui disais, mais tu t'occupes pas de moi. Tu me laisses tomber. Tu vois pas tout ce que j'ai j'ai comme souffrance, comme problème, mais tu vois rien. Mais voilà comment ça vient à ses oreilles. Vous le déshonorez, déshonore. Vous lui dire, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et j'ai vu. Tu as béni ma vie, tu m'as sauvé. Je vais être reconnaissant. Amen. Sois, prends et mets cette priorité en tête dans ta vie. Une autre priorité, Luc 10, 42. Luc 10, 42. C'est l'histoire de Marthe et Marie. Je vais être assez rapide maintenant. Luc 10, 42. Au verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose. Voyez-vous l'expression encore, une seule chose est quoi? Est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Alors, quelle est la priorité ici? La priorité de l'adoration qui doit venir avant tout ministère pour le Seigneur. L'adoration doit être prioritaire dans notre vie. Jésus dit à Marthe, Marie, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Cela ne veut pas dire que nous devons devenir que des maris. Non, nous devons être Marie et Marthe, tous les deux. Les deux doivent être en nous, mais Marie doit être en tête. C'est Marie qui doit prendre la première place, qui est là le symbole de l'adoration, de notre amour pour le Seigneur. Et vous savez, tout dans votre vie va dépendre de cette attitude, de cette relation d'amour avec le Seigneur. Si vous maintenez cette relation d'amour, c'est pourquoi, voyez-vous, nous prenons du temps dans nos conventions à adorer le Seigneur. C'est important parce que c'est notre premier ministère. C'est ton premier ministère. Et vous avez remarqué, quand on a bien adoré, que cette relation d'amour est bien établie entre nous et le Seigneur. Les autres choses se font facilement, n'est-ce pas vrai? Il y a comme un fleuve qui coule de notre vie après. Les choses se font facilement. Alléluia! La priorité de l'adoration. Combien de chrétiens sont découragés, sont secs dans leur ministère? Ils font, et ils sont comme découragés, on travaille, mais c'est dur. Et certains sont prêts à tout abandonner, et même dans le ministère. Mais Jésus dit, attention, tu as changé de priorité, tu as mis le ministère avant l'adoration, et ça ne marchera jamais. Tu as mis la charrue devant les bœufs, ça n'ira pas. Marie a choisi la bonne part. Qui ne lui sera point ôté. Avez-vous remarqué? Qui ne lui sera point ôté. Ça veut dire que tout ce qu'un adorateur fait pour le Seigneur, dans un esprit d'adoration, tout ce qu'il fait restera pour toujours. C'est un sceau, c'est un fruit que cette personne gardera pour l'éternité. Amen. Et tout ce que nous faisons et qui n'est pas scellé par cet esprit d'adoration, ça va disparaître. C'est du travail humain. Tout est humain. Et ça ne tiendra pas. Mais ce qui tiendra, c'est ce qui est fait dans cet esprit d'adoration. Avant de faire, tu dois d'abord être une personne qui adore le Seigneur. Amen. Et là, tu seras renouvelé, tu seras fortifié, tu seras encouragé. Et c'est alors qu'une fois renouvelé toi-même dans ton service, lorsque tu ouvriras ta bouche, alors des fleuves d'eau vive couleront de ton sein. Et tu verras combien il est merveilleux de travailler pour le Seigneur. Mais avant d'être un serviteur des hommes, tu dois d'abord être un adorateur du Seigneur. Y a-t-il cette priorité dans ta vie? Est-ce qu'il y a cette priorité? Mets ces priorités en place dans ta vie et tu verras des fruits merveilleux. Quatrième priorité maintenant, Philippiens 3.13. Philippiens 3.13, c'est l'apôtre Paul qui nous donne cette pensée-là. Verset 12 déjà, quand il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais, qu'est-ce que vous avez dans vos Bibles? Je fais une chose. Voyez-vous l'expression, une chose encore. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant. Je cours pour, vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Je cours vers le but. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière. Quatrième priorité, c'est la priorité de plaire avant toute chose au Seigneur. Voilà la priorité de l'apôtre. Il cherchait à plaire à son Seigneur et non pas aux hommes. Là encore, il y a un triage. Là encore, Dieu veut sonder nos cœurs. Beaucoup de chrétiens ou même de prédicateurs ont la crainte des hommes. Ils font tout pour plaire aux hommes. Ils ne veulent pas se mettre certains chrétiens ou certains pasteurs sur le dos. Oh là là, non, j'ose pas. Vous vous rendez compte, je vais avoir des problèmes, je vais les avoir sur le dos. Mais il vaut mieux que tu les aies eux sur le dos que d'avoir le Seigneur sur le dos. Il y a une priorité, c'est le Seigneur qui doit être prioritaire dans ta vie. Tu dois chercher à lui plaire, lui. Et si on cherche à plaire au Seigneur, forcément tu déplairas aux hommes. Forcément, il y a un choix à faire. J'ai fait ce choix. Nous devons le concrétiser chaque jour davantage. Avez-vous fait ce choix de plaire à Dieu? Ah, dès que tu fais ça, tu vas voir que ça va exploser de tous les côtés. Mais si tu as pris le parti de Dieu, le Seigneur sera avec toi. N'oublie pas, c'est le berger. Il n'abandonnera jamais sa brebis. Et il n'abandonnera jamais ceux qui veulent lui être fidèles. Ah, y a-t-il cette priorité dans ta vie? De plaire avant tout au Seigneur. Et pour terminer, une autre priorité. 2 Pierre 3, 1, 8 à 9. Une autre priorité merveilleuse. 2 Pierre, chapitre 3. Nous voyons cette expression aussi. Versets 8 et 9. Voici ce que l'apôtre dit. Mais il est une chose bien aimée. Mais il est une chose. Voyez-vous l'expression une chose encore. Bien aimé, que vous ne devez pas ignorer, c'est que devant le Seigneur un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, voulant que tous arrivent à la repentance. Mes amis, la priorité ici, c'est la priorité du retour du Seigneur. Il est une chose que vous ne devez pas ignorer, le retour du Seigneur. Un jour est comme 1000 ans, 1000 ans c'est comme un jour, mais il va revenir. C'est une priorité importante. Et s'il ne vient pas, il use de patience pour que nous soyons en règle. Ce n'est pas parce que il ne s'intéresse pas à nous. Non, c'est parce qu'il veut qu'on se convertisse. Et que ce temps qu'il nous laisse est un temps pour nous mettre en règle avec lui. Il use de patience afin que nous parvenions à la repentance et qu'on soit en règle avec lui. Mes amis, utilise cette priorité. Jésus revient. Mets ta vie en règle avec le Seigneur. Repends-toi de tes péchés. Réalise que tu es pécheur. Et accepte Jésus comme ton sauveur. Abandonne tout ce qui l'a déshonoré dans ta vie. Abandonne tout au pied de la croix. Et accepte-le comme ton sauveur et maître. Courbons-nous dans la prière maintenant. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour ces priorités. Seigneur, oui, il y a des priorités dans notre vie. Et combien on néglige ces priorités. On met les choses secondaires à leur première place. Et les choses qui sont prioritaires à la dernière place. Ils ont mis la charrue devant les bœufs. Et voilà pourquoi tout est bloqué. Tu nous demandes de te mettre en premier. Dieu doit être premier servi. La parole de Dieu dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Voyez-vous, Dieu veut que vous mettiez le Seigneur en premier dans votre vie chrétienne ou dans votre vie si vous n'êtes pas encore converti. Le Seigneur est là. Restons dans le recueillement maintenant. Et je vais adresser un court appel à ceux qui veulent vraiment se repentir ce soir. Tu as entendu la parole. Tu sais que tu es pécheur perdu, que tu ne peux pas te sauver toi-même, mais que Jésus est là, qui t'aime. Il ne peut pas supporter le péché, mais parce qu'il est mort sur la croix, il a porté ton jugement et ta condamnation. Et à cause de cela, si tu mets ta confiance dans son sacrifice, il pardonnera tes péchés si tu veux te repentir, si tu veux changer de vie, si tu veux vraiment délaisser tout ce qu'il a déshonoré, si tu veux dire « Oh Seigneur Jésus, je suis pécheur perdu, je te demande pardon ce soir, je suis perdu, je veux abandonner mon péché, mes passions, mes pratiques occultes, mes idoles. Seigneur, je veux tout abandonner. J'ai beaucoup de choses, mais il me manque l'essentiel. Ton pardon dans ma vie, ta présence dans ma vie, je te demande pardon. Si quelqu'un veut vraiment se convertir à Jésus-Christ, en abandonnant ses idoles et ses péchés, pour devenir une nouvelle personne, non pas quelque chose de sentimental, où vous sortez de l'église et vous êtes la même personne, mais où en sortant d'ici, vous décidez de mettre Jésus en premier, sa parole en premier, et vous changez de vie. Et vous désirez qu'une chose, vous rassembler avec des vrais chrétiens. Et être prêt à dire à vos camarades que désormais Jésus est votre sauveur et maître. Une vie nouvelle a commencé pour vous. Alléluia. Restons dans le recueillement. Est-ce qu'il y a des personnes qui ce soir veulent dire « Ô Seigneur, j'ai beaucoup de choses, mais je n'étais pas dans ma vie. Je suis pécheur et perdu, et j'ai besoin de ton salut, de ton pardon dans ma vie. » Levez votre main là où vous êtes, en signe de reconnaissance. Oui, Dieu vous bénisse. Est-ce qu'il y en a d'autres encore? Oui, Dieu vous bénisse. Faites-le sincèrement devant le Seigneur. Dieu vous bénisse, oui, monsieur. Oui, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs. Faites-le sincèrement. Non pas devant moi, mes amis. Cela ne sert à rien. C'est devant le Seigneur. Dieu vous bénisse. Oui, Dieu vous bénisse. Il y en a plusieurs. Faites-le devant le Seigneur. Car c'est lui qui vous voit. C'est lui qui vous entend. Et c'est devant lui maintenant que vous allez faire cette prière de repentance sincère et de dire à partir de ce soir, je change de vie. À partir de ce soir, j'accepte le salut, le pardon de Dieu dans ma vie. Et là où vous êtes, mettez-vous debout et priez après moi cette prière. Tous ceux qui ont levé la main, mettez-vous debout. N'ayez pas honte. Vous êtes devant le Seigneur. Amen. Et confessez Amen. Devant le Seigneur. Votre péché, en réalisant que vous êtes perdu, que vous avez déshonoré Dieu, oui, mais qu'il vous aime encore, et que ce soir, il veut vous pardonner. Décidez d'abandonner vos idoles, tout ce qui dans votre maison déshonore Dieu. Toute idole, tout livre de magie, tout livre d'impur, tout gris-gris, toute amulette, tout ce qui rappelle ton ancienne vie doit être détruit. Car Jésus, s'il vient dans ta vie, il veut être le maître de tout. C'est Dieu qui veut être maintenant le Seigneur de ta vie. Amen. Priez après moi cette prière de tout votre cœur.
Amen, amen.
Et que les chrétiens soient là pour prier aussi. Alléluia.
Amen.
Pour aider ses frères et sœurs
oui,
à prier.
Amen, amen.
Prions tous le Seigneur.
Alléluia.
Et vous qui êtes debout, priez de tout votre cœur. Seigneur Jésus.
Seigneur Jésus,
je viens à toi.
Je viens à toi.
De tout mon cœur.
De tout mon cœur.
J'ai beaucoup de choses.
J'ai beaucoup de choses.
Mais je n'ai pas le salut.
Mais je n'ai pas le salut.
J'ai beaucoup de choses.
J'ai beaucoup de choses.
Mais je n'ai pas l'essentiel.
Mais je n'ai pas l'essentiel.
Je suis perdu sans toi.
Je suis perdu sans toi.
J'ai une religion.
J'ai une religion.
Mais ma religion ne peut pas me sauver.
Mais ma religion ne peut pas me sauver.
C'est toi, Jésus.
C'est toi, Jésus.
Le sauveur du monde.
Le sauveur du monde.
C'est toi qui es mort à la croix.
C'est toi qui es mort à la croix.
Pour mes péchés.
Mes péchés.
C'est toi qui m'as aimé.
C'est toi qui m'as aimé.
C'est toi qui t'es donné pour moi.
C'est toi qui t'es donné pour moi.
C'est toi qui as porté mon jugement.
C'est toi qui as porté mon jugement.
Et ma condamnation.
Et ma condamnation.
Tu es mon sauveur.
Tu es mon sauveur.
Seigneur Jésus.
Seigneur
Jésus. Je te confesse mon péché.
Je te confesse. confesse mon péché.
Mes idoles.
Mes passions.
Tout ce qui t'a déshonoré
dans ma vie.
Je l'abandonne ce soir.
Détruire tout ce qui n'est pas ta gloire.
Je veux que tu sois le Seigneur de ma vie.
Que ton sang précieux
qui a coulé à la croix
me purifie maintenant.
De toute impureté.
Oh, pardonne-moi, Seigneur.
Purifie-moi,
par Seigneur.
Par le sang de la croix.
La parole de Dieu dit.
Que c'est le sang de Jésus. Qui purifie de tout péché. Rien d'autre ne peut te purifier. Que le sang de Jésus.
Ô Jésus.
Je crois en ton sang. Qui a coulé à la croix pour moi.
Pour me purifier.
De tous mes péchés.
Je le crois, Seigneur.
Parce que je me suis repenti. Parce que j'abandonne mon péché. Et je veux vivre maintenant.
En nouveauté de vie.
Pour te plaire. Et pour obéir à ta parole. Merci, Seigneur.
Pour ton pardon.
Pour ta délivrance.
Ô Jésus.
Je t'accepte comme mon sauveur.
Comme mon Seigneur.
Comme mon Dieu.
Mon Rédempteur.
Merci, Jésus.
Tu m'as pardonné.
Tu m'as délivré.
Je suis à toi.
Maintenant que je suis à toi.
Je pardonne.
À tous ceux qui m'ont fait du mal.
Comme tu m'as pardonné.
Je pardonne aussi.
À tous ceux qui m'ont fait du mal.
Seigneur Jésus.
Je pardonne.
De tout mon cœur.
Ils ne te connaissent pas.
Je leur pardonne.
Je veux leur pardonner.
Aide-moi, Seigneur. À aussi être une lumière.
Car ils ne te connaissent pas.
Je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé.
Je leur remets leur dette.
Alléluia.
Merci, Seigneur.
Je t'aime de tout mon cœur.
Je veux te servir désormais.
Je veux t'obéir désormais.
Je veux faire ta volonté.
Et non pas la mienne.
Je veux lire ta parole.
Chaque jour.
Je veux te prier.
Je veux marcher dans tes voies.
Et je veux aller dans une église.
Qui prêche ta parole.
Fidèlement.
Non pas une religion.
Mais avec des chrétiens.
Dont la vie est changée.
Qui sont devenus une nouvelle créature.
Non pas des personnes religieuses.
Qui restent toujours les mêmes.
Mais des personnes changées.
Par la grâce de Dieu.
Par le pardon de Dieu.
Par la puissance de Dieu.
Par le sacrifice de Jésus.
Merci, Seigneur.
Oh, merci, Seigneur.
Je t'appartiens.
Je veux maintenant obéir à ta parole.
Obéir à ta parole.
Et faire ta volonté. Je ne veux pas avoir honte de toi.
Je veux dire autour de moi.
Comme tu me conduiras.
Je ne veux pas avoir honte de toi, Seigneur.
Comme mon sauveur.
Comme mon rédempteur.
Ô Jésus, je veux rester fidèle.
Jusqu'à la fin.
Car tu reviens bientôt.
Et je veux être prêt.
Je veux que tu m'enlèves. Avec tous les autres chrétiens de la terre.
Quand tu reviendras.
Je veux être près de toi.
Marchant dans la lumière.
Dans la vérité.
Dans la sainteté.
Dans l'obéissance.
Dans l'amour.
Le pardon.
Je veux te suivre.
Je ne veux qu'une chose.
De plaire à toi.
Et non pas aux hommes.
C'est terminé, Seigneur. C'est toi qui prends la première place.
Parce que tu es Dieu.
Et tu mérites cette place dans mon cœur.
Prends toute ma vie, Seigneur.
Prends toute ma vie.
Elle est à toi.
Dès maintenant.
Et pour toujours.
Remercie le Seigneur maintenant.
Dis merci, Seigneur.
Pour ce que tu as fait dans ma vie.
Pour le pardon que tu m'as accordé.
Maintenant, je t'appartiens.
Alléluia.
Et je veux détruire.
Dans ma maison.
Tout ce qui n'est pas de toi.
Je veux vivre dans la lumière.
Dans la sainteté.
Et dans la vérité de la parole de Dieu.
Honorons-nous tous.
Alléluia. On va se réjouir tous.
Et remercions le Seigneur.
Remercions le Seigneur.
Oh Seigneur, merci.
À haute voix, tout le monde.
Merci Seigneur parce que tu as inscrit.
leur nom dans ton livre de vie.
Remercions le Seigneur.
À tous ceux qui se sont repentis sincèrement devant toi, tu as inscrit leur
Alléluia.
Nom.
Alléluia.